خطوة.
Voilà, donc le sujet principal de ce cours va être le début de la paracha. Le début de la paracha, il parle de Avraham Avinu qui achète un champ chez Ephron. Un champ et plus particulièrement une sépulture pour ça. D'accord. Donc c'est une histoire que tout le monde connaît. Et nous, on va s'intéresser à un passage plus particulièrement qui va être une clé pour la compréhension de cette histoire a priori. À la fin, juste à la fin, c'est Marie Vayakom Asadé Vermara Charbol et Abraham, la Arpuzat Kaver Mednechet. Donc il s'est dressé le champ et la grotte qui était à l'intérieur pour Abraham en tant que héritage de tombe, on va dire, de la part des enfants d'Israël. Mais Abraham, Zaken, Abraham était âgé. Bah, Bayamim, il allait dans les jours. Bah, Hachem, et Hachem, Berach et Abraham, Bakol. Il a béni Abraham, donc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Abraham, Hachem, il a béni Abraham, donc. Et il était vieux. Alors, ce pasouk ici, en plein milieu, il fait le lien entre l'acquisition du champ, et ensuite la suite avec Eliezer aussi. Avec la chliroute de Eliezer qui envoie, Eliezer aller chercher une femme pour. Non, dans cette paracha de l'achat du champ, dans la Torah, on retrouve dans la Gemara plusieurs fois cette notion d'acheter des choses avec de l'argent. Et la Gemara, elle apprend ça de cette paracha. Et Kifra Midéphron, par exemple, Kidushin, Davbet, on apprend comment qu'on acquiert une femme avec de l'argent par de ce passouk-là. C'est marqué Natati Kesef, c'est des cartes féminines, prends de moi. Donc ça parle principalement, en fait, le sujet de ce paracha, c'est l'acquisition d'un champ. Et cette acquisition, elle ne se fait pas n'importe comment, elle se fait par de l'argent. Avraham Avinu, il donne de l'argent, il acquiert quelque chose. Et cette paracha, c'est une référence après, de manière générale, dans ce qui est développé par les Chazal dans la Torah chez Baal Peh, pour parler de certaines halakhot qui concernent l'acquisition de choses ou d'autres, par exemple des champs, avec de l'argent. Alors, d'accord. Maintenant, il y a un drasha, regardez, vous voyez, dans le Marakidushin, la Medbet Amoubet, Rabbi Yossi Galilomer en Zaken et la Michikana Chokma. Parce que celui qui est Zaken, celui qui a acquis de la Chokma, ça c'est Zaken, en fait. Achille explique là-bas que c'est un acronyme. Zaken, c'est Zekana, et on termine par Chokma. Il a acquis quoi? Il a acquis de la Chokma. Et ça, c'est étonnant. Zekana Chokma. Zaken, c'est Zekana Chokma. Il a acquis de la Chokma. Alors, Moshe, il s'interroge, il dit, on ne voit pas trop le rapport entre la vieillesse et l'acquisition de la Chokma. Le drash, il a l'air très loin du pshat, c'est un racheté vote, mais on ne voit pas le lien qu'il y a entre des choses. La zikna, la vieillesse, ça fait référence en général pour les gens au temps qui passe, un état du corps qui devient plus faible, à une flétrissure du corps, perte de moyens physiques, mais on ne voit pas trop le lien qu'il y a entre ça et la notion de chorma. Alors, pour comprendre ça, on va essayer de parler de ce que c'est un kinyan. Qu'est-ce que c'est acquérir avec de l'argent? Parce que vous voyez, ce zaken-là, il suit tout de suite l'acquisition du champ avec de l'argent. Donc, c'est quoi acquérir avec de l'argent? Cette notion d'acquérir avec de l'argent, ça veut dire quoi? Alors, regardez, il y a deux psukim ici. Un dans Bereshit et un dans Iyov. Et un dans Tehilim. Alors, c'est le pasouk avec Rashi qui ramène sur place. Ve'ata, alors alartak nirsof nirsafta levet avicha. Donc, il lui dit, rentre chez toi à la vanne, c'est la vanne qui parle. Yaakov, il lui dit, nirsof nirsafta levet avicha. Rashi dit, hamadta, tu désires rentrer chez ton père. Ve'harbe, yesh b'amikra, il y a beaucoup comme ça dans la Torah. Ve'nirsefa ve'gam kalta nafshi. Lema asiya decha tirsof. Tu aspires, tu désires à quelque chose. C'est-à-dire que la notion de kesef dans la Torah, c'est une notion de kisouf, de nirsofle, ça veut dire aspirer à, être attiré vers quelque chose très fortement. Ça, c'est la notion de kesef dans la Torah. Moi, dans les psukim, ici, c'est marqué dans le chien. D'accord? Ça c'est la définition de ce que c'est l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est quelque chose qui aspire à être, à aller en dehors de lui-même, à aller vers quelque chose. Lui-même, il ne veut pas rester chez lui-même, il veut sortir vers. Ouais. Dans la Torah, l'argent, ce n'est pas quelque chose avec lequel, quelque chose qu'on achète, mais c'est quelque chose qui est utilisé pour acheter autre chose. Par définition, l'argent, lui-même, il sert à rien du tout. Il sert qu'à acheter autre chose. Lui, sa réalité, elle n'existe pas en dehors de ça. Donc l'argent, c'est quelque chose qui aspire à être donné pour acheter quelque chose. Lui, il veut pas rester lui-même, il sert à rien. Donc, conceptuellement parlant, ça veut dire l'argent, il n'a pas de pensée, mais ça veut dire l'idée de l'argent, c'est quelque chose qui veut être allé et acheté pour. Donc le concrétiser dans quelle que soit la chose que la personne veut acheter avec cet argent-là. D'accord? C'est un potentiel, exactement. L'argent, c'est des possibilités. Maintenant, la deuxième chose, c'est que l'argent, c'est pas seulement qu'il aspire à, mais l'argent, c'est il porte en lui des infinies possibilités, infinies, entre guillemets, c'est-à-dire autant que le monde il peut en offrir. Quelqu'un qui a de l'argent, il peut acheter des milliers de choses avec. Ça veut dire il peut pas en acheter 1 000 avec cet argent, mais il peut choisir, il peut acheter ça, il peut acheter ça, il se balade dans le champ. Et d'un point de vue économique, dans la réalité du marché, l'argent, c'est quelque chose qui offre de multiples possibilités, des énormes possibilités. D'accord? Et finalement, quand je donne de l'argent à quelqu'un, j'achète, et ben finalement je concrétise une des possibilités. Tout le reste, je l'ai laissé de côté. J'ai dit, voilà, je vais acheter ça. Je les concrétise dans une chose. Et toutes les autres possibilités que je pouvais faire, tout ce que je pouvais faire avec l'autre, et ben j'ai renoncé. J'ai dit, non, ça, je veux cette chose-là et pas autre chose. J'ai choisi. D'accord? J'ai choisi avec cet argent que j'achète ça. D'accord? Ça, c'est acquérir avec de l'argent. C'est donner à une personne une chose qui porte en lui toutes les possibilités. Et la concrétiser dans une chose, et lui, il me donne en échange la chose que j'ai choisie, et moi, je lui donne en échange la possibilité d'acheter autre chose. La zikna, c'est quoi dans la Torah? Pourquoi Chachamim, ils nous disent que la zikna, c'est Zekana Chokma, celui qui a acquis de la Chokma. Regardez le regard extraordinaire que Zekana Chokma, il a acquis de la Chokma. C'est quoi? Pourquoi c'est ça la vieillesse? Parce que dans la Torah, la vieillesse, ce n'est pas une notion d'âge. C'est une notion de concrétisation et de maturité. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui a décidé de convertir ses possibilités et ses facultés de sa jeunesse, il a décidé de les convertir et de les appliquer dans sa vie à quelque chose de concret. D'accord? Il a pris quelqu'un quand il est jeune, il a plein de possibilités, il les convertit dans quelque chose. Il choisit et il acquiert quelque chose. Il choisit un verre, il renonce à tous les autres et il fixe, voilà, j'ai choisi maintenant, je veux ça. Ça, c'est la vieillesse. C'est pas lié à l'âge. Quelqu'un, il peut être très jeune et être très vieux. C'est-à-dire qu'il a avec une grande maturité. Et il s'est investi dans un projet précis. Il met toutes ses forces dedans. Quelqu'un, il peut être très vieux et toute sa vie, il a vogué par tous les vents. Et finalement, il s'est jamais posé nulle part. Il a jamais concrétisé. Il a jamais acquis quoi que ce soit. C'est pour ça qu'en réalité, le pshat et le drash sont pas éloignés. Le zaken, c'est celui qui a connu la chokma, c'est-à-dire la vieillesse. C'est quelqu'un qui a évolué. Quelqu'un qui a évolué pas au niveau de l'âge. Quand la Torah, elle dit zaken ba bayamim, il allait dans les jours. C'est-à-dire quoi? Il était âgé, il allait dans les jours. C'est-à-dire qu'il concrétisait ses jours. Il allait avec ses jours et tous les jours, il convertissait sa vie en quelque chose de concret. Il se réalisait tous les jours. Enfin, tous les jours, il se réalisait. Il n'y avait pas un jour où il n'avait pas acquis quelque chose dans sa vie. Ça, c'est extraordinaire parce que, comme il fait remarquer Ramon Shapira, vous regarderez en français particulièrement, comment on appelle la jeunesse? On appelle ça le printemps de la vie. Printemps de la vie. Et comment on dit en hébreu? Regardez le papier. Donc, dans Iyov, avec Rashi, Bimé Chorpi, à l'époque de ma jeunesse, Bimé Kadmouti, quand j'étais jeune. Chorpi, c'est l'hiver, c'est son rêve. Pourquoi la jeunesse en hébreu, c'est l'hiver, alors que chez les Goïms, c'est le printemps? C'est Avdil, il y a une différence fondamentale qu'il faut bien comprendre ici. Tout est basé sur cette chose-là. La jeunesse en hébreu, c'est l'hiver, et chez les Goïms, c'est le printemps. Parce que, dans la culture, dans une culture, c'est-à-dire dans un regard simple, c'est quoi être jeune, c'est quoi avoir, c'est avoir toutes les possibilités. Voilà, aujourd'hui, tout existe, comme le printemps, tout est en train de pousser, toutes les profits sont possibles. Un jeune, il se lève le matin, il est rempli de possibilités, son corps et sa santé et ses envies, sa volonté, elles lui permettent d'aller vers énormément de choses. Mais en réalité, c'est que des possibilités, il n'a rien concrétisé dans sa vie, c'est que des possibilités. Mais il a jamais rien fait encore. Mais voilà, je suis jeune, voilà, c'est le kavod, voilà, celui-là il est jeune, il peut faire plein de choses. Alors que dans la Torah, la jeunesse, c'est l'hiver. T'as rien encore, c'est vide, tout est en friche. Il y a tout à faire, t'as rien fait. Alors t'as des possibilités, mais ça n'existe pas. C'est que des potentiels, ils sont encore sous terre, ils n'ont pas éclos encore, ils n'ont pas poussé. Et la vieillesse, c'est le printemps, parce que ça veut dire que maintenant, t'as fait pousser quelque chose. Donc la beauté, le printemps, les choses qu'on existe, c'est la vieillesse, c'est pas la jeunesse. C'est ça qui est extraordinaire dans cette vision de Chazal, qui font le lien entre le Kinyan et la Zikna. C'est hyper yosodi, et c'est une nouvelle vision des choses. D'accord. Donc en vérité, c'est quoi la jeunesse? C'est qu'un potentiel. Un potentiel de faire les choses. Et c'est quoi la vieillesse? La vraie vieillesse, ça veut dire dans la Torah. La vieillesse, c'est quand il a réalisé quelque chose, il s'est concrétisé. Quelqu'un, il peut rester toute sa vie très jeune et rester toute sa vie un être de potentiel. Quelqu'un, depuis qu'il est jeune, il peut concrétiser. C'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. D'accord? Et c'est pour ça que dans Kohelet, c'est marqué qu'il y a Hayaldut v'Hashachrut, la jeunesse, c'est Hevel. C'est du vent. C'est pas c'est du vent. C'est du tout. Il n'y a rien. C'est qu'encore à l'état de, entre guillemets, de molécules, d'atomes. C'est-à-dire que ça n'existe pas encore. Les atomes, ça existe plus encore après la potentiel. Alors, ici, je voulais insister sur une notion qu'en vérité, dans ce cours-là, il n'en parle quasiment pas, mais c'est un cours entier dans Bereshit que je voulais faire et que je n'ai pas eu le temps de faire. Mais c'est la notion quasiment la plus fondamentale qu'on retrouve chez Arnaud Shapira, donc c'est important de la développer. C'est exactement la notion qu'on vient de faire, mais appliquée au Maaseh Bereshit, appliquée à la création. Alors regardez, c'est un Ramban dans Bereshit, le tout premier passage. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, c'est un des premiers Ramban, un qui est très connu a priori. Alors regardez, je lis le Ramban. Alors Ramban, il veut expliquer c'est quoi Tohu Vavohu. Quoi le Tohu et c'est quoi le Vohu. Alors il dit comme ça, Aval, Otsi mina Efes Agamo, il a sorti du rien, Yesod Dak Meod. Un yesod très fin, tout petit, quand une particule d'énergie en vérité, en bo mamash, il n'y avait rien de concret. Avaloukoachamamtsi, mais c'est la force de pouvoir sortir de là des choses. Mouchan lekabel soura, prête à recevoir une soura, prête à recevoir une forme. Mais la tset minakoach et la poale est de sortir du potentiel à la concrétisation. Vehu achomer harishon, c'est la première matière. Nikra les Yevanim Hayouli. Les Grecs s'appellent le Hayouli. En grec, on dit, c'est la première particule s'appelle le Hayouli. On voit dans les Rishonim, ils utilisent Hayouli. Hayouli. Hayouli en grec, ça veut dire la première particule. On appelle, c'est les sciences aujourd'hui, Big Bang. Il y a une première particule, et après tout découle de là. Ve'achar Hayouli, l'opara d'avar. Et après ça, il n'a plus rien créé de nouveau. Aval Yatsar, mais il a formé Ve'asa, il a fait. Ça veut dire, il a dessiné de là. Mimenu, Himtia, Kol, de là, il a tout sorti. Ve'ilbi, Shatsurot. Il a habillé les formes, Vetikenotan, il les a mis en place. D'accord? Le tikkun, le Ramban, il appelle ça, c'est la mise en place finale. Ça veut dire, au début, on prend cette énergie première, elle se développe, et le tikkun, c'est quand les choses, c'est la asiyas, c'est quand les choses elles arrivent sur leur forme finale, la forme que nous, on connaît. Vers cette matière, chez Karou Ayouli, et les Grecs appelaient Hayouli, Nikra Belashana Kodesh, Tohu, ça s'appelle Tohu en hébreu. Ve'amila, Nigzera Milshonam, Betohe Alarishonot. Ça s'appelle quelqu'un qui est Tohe Alarishonot, qui se perd. Voilà. Mipne chez Imadam Balixor, parce que si quelqu'un il veut lui donner un nom, Tohe Venimlach, il est perdu et il change. Tu vois, il dit comment, comme ça, je ne sais pas, il n'arrive pas. Les Koro Beshemacher, et au début il commence à vouloir lui donner un nom, ensuite il change d'avis, il change d'avis, il change d'avis, jusqu'à qu'il n'arrive jamais à le nommer, il n'arrive jamais à lui donner un nom à cette chose. Parce qu'il n'y a aucune forme qui a été habillée pour qu'il y ait un nom dessus. Et la forme qui est habillée sur la matière, Bohu, c'est la Tsura. Lui, Bohu. En lui, il a cette chose-là. Donc, voilà, Bohu. En lui, il est. Ça veut dire que maintenant, il y a en lui quelque chose. Pour expliquer ça très clairement. La matière. Ça, c'est fondamental dans la Marshava du Maharal et de tous les grands balais Marshava. La matière, il y a le Chomer et la Tsoura. Le Chomer, c'est la matière. Mais la matière, imaginez une matière dénuée de toute Tsoura, dénuée de toute forme, de toute couleur, de tout goût, de toute possibilité d'habillage possible. C'est une matière à l'état pur, sans rien d'autre qui l'habille. Nous, on ne peut pas imaginer ce que c'est avec notre cerveau. Parce que nous, toutes les matières qu'on connaît, elles sont forcément habillées avec une forme, avec une certaine solidité, une certaine. N'importe. Tout est habillé. Mais il y avait une matière première à la base qui était habillée de rien, qui n'avait aucune soura. Et donc, si quelqu'un il la voit comme Yachol, c'était au tout début de la création, il ne pourra pas lui donner un nom parce que c'est indéfinissable. Qu'est-ce que ça veut dire une chose qui est indéfinissable, mais que tout sort de là? Ça veut dire que c'est le potentiel absolu de pouvoir tout créer. Hachem, il a créé cette chose-là en premier, et après, il a tout formé avec ça. Ça veut dire qu'en vérité, cette chose-là, c'était une possibilité, un potentiel. Et après, toutes les concrétisations, elles sortent de là. Mais qu'est-ce que ça nous informe à nous sur la création du monde? Pourquoi on a besoin de nous enseigner Bereshit bara Elokim et Hashemayim et Haaretz va'aretz hayta tohu va'bohu? Qu'est-ce que ça va enseigner? Ça va enseigner qu'en vérité, la création à son origine, c'est une création de potentiel. Et tant qu'un homme ne s'est pas réalisé, il n'a pas concrétisé, il n'a pas donné une tsoura aux choses, il n'a pas donné une forme, il n'a pas habillé avec un sens. Dans notre vie, nous, ça s'appelle donner un sens aux choses. Dans la matière, ça s'appelle lui donner une forme, ça s'appelle lui donner une couleur, ça s'appelle lui donner une texture, etc. etc. Et ben, il n'a rien fait encore. Il est resté à l'état primaire de la matière. Il n'est pas rentré dans le monde aujourd'hui, il n'est pas rentré dans la Asiya, dans le monde concret. Ça, il faut bien comprendre. Ça, c'est le Homer, et ça, c'est la Tsoura. Donc, quand on parle de Tsoura dans la matière, on parle d'un habillage, de quelque chose qui fait qu'on arrive à la revoir et à la définir. Mais quand on parle dans la vie d'un homme, comme on a dit, que la vie d'un homme, quand il est jeune, c'est que des possibilités. Quand un enfant il est, tout le monde est Mazal Tov, en vérité, les enfants sont des plus un potentiel absolu. C'est une Simcha extraordinaire quand un enfant il est, parce qu'il peut donner quelque chose d'extraordinaire, mais il y a des enfants, ils ne donnent rien à la fin. Il y a des gens qui donnent rien, ils donnent un peu. C'est qu'en fait, c'est qu'une graine, c'est qu'un début. Qu'est-ce que ça va donner? Personne ne sait ce que ça va donner. Mais on est heureux parce que voilà, c'est un nouveau monde d'infinies possibilités qui est créé. Comme exactement la création du monde, là, la naissance de l'enfant, c'est un petit peu une nouvelle vie de possibilités. Maintenant, est-ce que cet enfant, il va se réaliser, il va se concrétiser? Est-ce qu'il va réussir à créer quelque chose de sa vie? C'est pas évident. Donc ça s'appelle la tsoura. Quelqu'un qui donne un sens à sa vie, il donne une tsoura. Chacun, il donne une tsoura différente. Il y a des gens, ils changent tous les jours de tsoura. Donc là, je fais une digression, c'était pas prévu, mais je vais le dire quand même, parce que dans Parashat Shemot, c'est marqué Asher Bessar, Hamorim, Bessaram. Bien, vous comprenez. À propos des Égyptiens, c'est marqué Bessar, Hamorim, Bessaram. Leur chair, c'est une chair d'âne. Et ça veut dire Hamor, Homer. Homer, Hamor, c'est la matière. L'âne, c'est quelque chose que tout ce qu'on lui demande de faire, il fait. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a eu, il n'a pas une personnalité qui vient et qui s'exprime et dit, moi, je suis comme ça. Tu lui mets sur la, tu le fais marcher comme ça, tu le fais aller comme ça. Il n'a pas, il n'est pas chaud. Enfin, c'est pas quelqu'un, le cheval, il est intempétueux, il va, il court, il a envie de quelque chose. Chaque animal, il exprime une volonté forte. L'âne, c'est quelqu'un qui, en vérité, il n'exprime pas de volonté spécialement, dans les animaux particulièrement. Et en vérité, on peut lui mettre un peu la tsoura qu'on veut. Ça veut dire, on peut lui faire un peu ce qu'on veut. Quand quelqu'un, tous les jours, Kamot, sa chère, des fait noir, il passe d'une tava à une autre, il passe d'une avodazara à une autre, d'une envie à une autre. En vérité, c'est un homère qui s'habille, il déshabille, il s'habille, il déshabille. C'est-à-dire que c'est une vie qui prend une forme et qui l'enlève, qui prend une forme et qui l'enlève, etc. Sans jamais se fixer sur quoi que ce soit. Donc c'est un homère qui reste sans cela, en vérité. D'accord? Ça, il faut bien comprendre cette notion de homère et de soi. Et ça, c'est ce qu'on a exprimé avec le Kinyan Kesef. C'est-à-dire qu'en fait, notre monde, c'est un monde de Kinyan Kesef, c'est un monde d'argent, c'est un monde de potentiel, de possibilités. Et ensuite, quelqu'un, il doit acheter, il doit concrétiser dans quelque chose. Il doit aller dans le, ce monde, c'est comme un grand marché, il faut choisir, achète quelque chose. Si tu n'achètes pas, tu restes à l'état de programme, tu restes à l'état du début du tohu. Et tohu, c'est rien. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui mettre un nom, il n'y a rien, il n'y a que du potentiel, il n'y a aucune réalisation. Et quelqu'un qui meurt comme ça, ben, il meurt avec lui. Il ne prend rien avec lui parce qu'il n'y a que le Kinyan qu'on prend avec soi. D'accord. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Ça, c'est l'intro. Tanou Rabbanan, la Gemara dans Baba Batra. Est-ce qu'on veut expliquer la suite? Va Hachem, Berach et Avraham, Bakol. Hachem, il a béni Avraham dans tout. Ça veut dire quoi, Bakol? C'est le Bakol, Mikol, Kol. Le fameux Bakol, Mikol, Kol. Avraham, Yitzhak, Veyakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Trois, Hachem, il leur a fait goûter dans ce monde comme l'Olam Haba. Elouen, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Dirtivé, Bakol, ici. Yitzhak, Dirtivé, Mikol. Yaakov, Dirtivé, Kol. Ensuite, Shlosha, Loshalat, Ben, Yitzhara. Trois, que le Yitzhara, il les a pas dominés. Ils n'étaient pas sous leur ensemble. Donc, le Yitzhara. Elouen, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Dirtivé, où? Bakol, Mikol. Mais ça, le Ramban, c'est vrai qu'il y a un drache que Bakol, ça fait référence à une fille, mais le Ramban, il s'interroge comment les Chazal, ils peuvent être en marloquette, est-ce qu'il avait une fille, c'est pas très intéressant. Et il dit, en fait, quand on parle d'une fille ici, c'est des sodotes de la Torah, c'est un Ramban qui est très très difficile, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le Maran HaKavod. Parce
Mais
que ici, il veut développer l'amida du col. L'amida du col, que ça fait référence. C'est ça le sujet ici. Donc, c'est quoi l'amida du col?
parce que la histoire de Barak et leur mère.
Donc, on la reprend. Alors, cette mida de col, c'est quoi? Alors, le Ramban, il dit comme ça. Le Ramban, il dit que la mida du col, c'est ce qu'on voit dans la tfila. Il y a marqué Kirol Bachamim Kirol Bachamim. Le chol, c'est quelque chose qui relie le Shamayim Vaaretz. Qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose qui relie le Shamayim Vaaretz? C'est-à-dire que le Shamayim Vaaretz, finalement, qui relie le ciel et la terre. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la terre colle dans le sens qu'il y a un lien total entre le ciel et la terre. Les deux, ils ne forment plus qu'un. C'est-à-dire que la terre, elle convertit toutes ses possibilités, elle les concrétise entièrement. Ça, convertit à deux. Alors, regardez, pour ça, j'ai ramené un Ramchal dans Derech HaShem. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. De Yesodi, il le dit en demi mots, mais il faut le développer, sinon c'est difficile. Il faut comprendre quelque chose. Le Olam Haba, c'est ce que on est nous, qu'on sera nous à la fin de notre vie, ça sera ça notre Olam Haba. Le Olam Haba, c'est l'homme avec sa réalisation, c'est ça le Olam Haba pour une personne. C'est pas en plus de ce qu'il est. C'est ce qu'il est, il sera Olam Haba. Sauf que ce monde-là, c'est Ayom La Sotam. Aujourd'hui, on fait Machar Le Kamesram. Sur quoi tu vas recevoir le salaire? Sur ce que tu es toi aujourd'hui. Regardez le Ramchal dans Derech Hashem, il dit comme ça. Olam Hazeh, Olam Haba. Hashem, il a décrété, chez Yegvul Laishtatut, qu'il y a une limite à l'effort qu'un homme peut faire pour atteindre la Shlemut, pour acquérir une certaine perfection. Chez Ishlim, et quand il a terminé son effort, Yassik Shlemut, et donc, il va atteindre une certaine Shlemut, et il va se reposer. Il va s'arrêter dans ce profil-là éternellement. Alken, donc, il y a eu deux temps qui ont été mis en place. Mana avoda, vezman kibbutz sakhar, le temps du travail et le temps de recevoir la salaire. Veula midat atov beruba, chez avoda yeshlazman. Donc la mida du tov, elle est plus grande parce que le travail, il a un zman fixe. Et moi, chez Gazra, Chromato, là, comme Hachem a décidé que c'était adapté. Mais Kiboula, par contre, le fait de recevoir le salaire, le moment, ce moment-là, il n'a pas de fin. Il a la netzach ou kif, asher kanal lo, dans la perfection qu'il s'est acquis à lui. Et là, c'est encore plus clair après. Anashim, dans ce monde du Olam Haba, ils vont être distingués les personnes, madrigatam ou et elle va être leur madriga, leur maala changeante, kefiashiou en fonction de la mesure, machetarku, beolam avoda, qui sont fatigués dans le monde du travail. Mais qui filment achetéishtadlou, les asik et en fonction de l'effort qu'ils ont fait pour atteindre la shlemu. Qui kefishurze, parce que selon ce shur-là, tisdaher aneshama beatma, la elle va éclairer, betaïr bagouf, donc elle-même, elle va être plus éclairante, betaïr bagouf, elle va éclairer le corps, ou tesakhe, elle va le purifier, viknusem, yekar, ou mala, les deux, ils vont acquérir un grand kavod, et une grandeur, ils vont pouvoir se rapprocher d'Hachem, et être éclairés par la lumière de sa face, de profiter de son véritable bienfait. Alors ici, il y a beaucoup de choses qui sont dans le central. En réalité, j'ai pris des petits passages pour faire tout le début de Hachem pour bien comprendre, mais le icard de ce que je voulais tirer d'ici, c'est que ça. C'est qu'en réalité, l'homme, ce qu'il est dans ce Olam Hazeh, c'est ce qui sera dans ce Olam Hazeh. Toutes les possibilités non exploitées dans son lamazé, on ne les aura pas dans le lamazé. Toutes les possibilités qui ont été concrétisées et exploitées dans son lamazé, c'est ça qu'on aura dans le lamazé. Et ça, et rien d'autre. Évidemment, on ne sait pas comment ça va se passer le Tarnoum, mais en tout cas, le Ramchal, il nous dit clairement que chacun, en fonction de lui, ce qu'il est devenu et là où il est arrivé. Alors, on va essayer d'expliquer c'est quoi Eretz Veshamayim, c'est quoi le col, cette mida du col. Bien comprendre, maintenant, il faut essayer de bien comprendre cette Gemara, que Hachem, il leur a fait goûter le Olam Haba dans ce monde-là. C'est quoi Hachem, il leur a fait goûter le Olam Haba dans ce monde-là. C'est quoi la mida du col dont Ramban y parle, qu'Avraham, Israël, Yaakov, ils ont eu, et c'est ça qui est à l'origine de cette Gemara-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eretz, qu'est-ce que ça veut dire Shamayim dans cette notion-là? Il y a pas mal de définitions. Mais ici, on va prendre le mot Eretz dans la Torah. Qu'est-ce qu'il veut dire le mot Eretz? Qu'est-ce que veut dire le mot Shamayim dans cette dimension-là? Regardez, il y a un Midrash, Bereshit Rabba, et un Midrash en Michelet. Lama nikra shema eret, pourquoi elle s'appelle la terre? Chez Ratzta la asot retzona, parce qu'elle a voulu faire la volonté de son frère. Deuxième midrash, eret, chez Bnei Adam ratzimba, parce que les gens ils courent à l'intérieur. Donc eret, c'est milachan ritza, courir, et milachan ratzon, volonté. Comme ça, il est marqué dans le midrash. La eret, c'est quelque chose qui court, qui veut aller vers quelque chose. Quelqu'un qui veut quelque chose, ça veut dire qu'il n'a pas cette chose-là. La volonté d'aller vers les choses, ça veut dire la volonté de m'élargir. Moi, il me manque quelque chose et je veux m'agrandir, je veux m'élever, je veux évoluer. Donc, je veux vers quelque chose. Et quand j'y vais en courant. Si j'y vais en courant, c'est une forte volonté. Si je n'y vais pas en courant, c'est que, on ne parle pas de la course à pied, on parle d'une volonté forte d'aller vers les choses. La terre, elle court vers où? La terre, c'est que les gens, ils courent. Les gens, ils courent vers où dans la terre? Et la terre, ça court. Parce que la terre, c'est la chose de courir. C'est cette dimension-là. Alors, elle court où la terre? Ben, elle court vers le ciel. Ça, je crois que la terre, elle court vers le ciel. Ça veut dire que le Shamayim, c'est le Sham, c'est là-bas. Sham, c'est là-bas. Shamayim, c'est les là-bas pour les gens. C'est comme si on disait Shamim, les là-bas. Chacun, il a, c'est tous les là-bas. Tous les là-bas de chacun, de tous les gens sur terre, ils se trouvent là-bas. Et la terre, elle court, elle veut courir. Tout le monde veut courir vers quelque chose. Mais vers où on court? On court vers là-bas. Ça veut dire quoi, on court vers là-bas? Ça veut dire qu'en vérité, toutes les possibilités de ce monde, elles aspirent à être concrétisées. Hachem, il a créé un monde de potentiel. Un monde où tu as les moyens de faire quelque chose, et tout court vers le ciel, c'est-à-dire le ciel dans l'idée de la réalité, dans l'idée de Olam Haba. C'est-à-dire que moi, ce que je suis devenu, moi, ce que j'ai fait comme mitzvot, ce que j'ai étudié comme Torah, ce que j'ai acquis comme mitzvot tovot, eh ben, c'est ça que je vais être Olam Haba. Donc, en réalité, ce monde, il court vers quoi? Il court vers l'Olam Haba, parce que ça, la vraie vie. La vie d'aujourd'hui, c'est une vie de travail, c'est une vie où on est là pour travailler. Mais où est-ce qu'on vit vraiment? C'est l'Olam Haba. C'est là-bas qu'on va être et on va profiter de la vie en vérité. Ce que les gens, ils appellent la retraite. À la retraite, je veux profiter. Moi, je travaille et après, dans 30 ans, je suis riche et j'accumule de l'argent pour ensuite profiter. Une fois qu'il n'a plus la force de profiter de rien, il profite. Mais dans le sens de la Torah, c'est vrai. C'est vrai que le monde, il a été fait pour kiffer, pour profiter. Mais dans quel sens? Dans le sens, aujourd'hui, tu travailles et demain, tu profites. C'est vrai. Ayom la sotam, ou machar le kabes faram, c'est le ta'anou. Bon, le Ta'anouk, la vraie vie, c'est-à-dire il y a une autre vie, il y a un autre endroit plus tard où le plaisir il arrive. Donc en fait, nous, on met de côté pour la retraite. On s'accorde avec le Ratzon Shamayim. C'est ça qu'on crée, c'est le possible. Donc en réalité, la terre, elle court vers la fin du chemin. On court pour aller au but. Au but, c'est quoi? C'est le but, c'est le Shamayim. C'est quoi le but, c'est le Shamayim? Ça veut dire le but, c'est me réaliser, je cours pour me réaliser, pour ensuite arriver à l'endroit plus tard où je vais, toutes ces réalisations-là, elles vont prendre un sens et finalement, je vais en profiter de mes réalisations. Je vais vraiment profiter de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, on ne profite pas vraiment, mais un jour, on en profitera vraiment. Le Ta'anouk qu'on ne connaît pas, qui est tellement extraordinaire, il arrivera à ce moment-là. Donc la terre, elle court vers là-bas. La terre, elle court vers le profit. Les gens, ils courent vers la retraite, ils courent vers le kiff. À chaque fois qu'ils ont un moment, ils s'arrêtent pour kiffer. Mais c'est normal. Parce qu'en réalité, ce monde-là, il a été créé pour kiffer. Sauf qu'il n'a pas été créé pour kiffer maintenant, il a été créé pour kiffer plus tard. Mais c'est le but du monde. Le Shamalim, c'est le Ta'anoud, c'est la réalisation, c'est le profit de ce que j'ai travaillé. Et dans cette ère-là, je cours, je travaille, je veux me réaliser. Ouais, regardez, il y a un mirage très connu pour appuyer cette idée-là. Comment le Mara, il explique, on va voir comment le Mara, il explique. Amar Rabbi Simon, En lecha kol esev ve esev, il n'y a pas une seule plante, même un brin d'herbe, chez En lo mazal, ou malar, il y a deux girsot, deux versions, Barakia dans le ciel, chez Makioto qui le frappe, Vomer lo gadel qui lui dit grandir. Il le frappe. Le Mara, il dit, mais c'est quoi frapper? Pourquoi tu le frappes? Pourquoi tu le frappes? Ça ne veut pas frapper, hein. Ça veut pas frapper une plante pour qu'elle grandisse. Le Mara, il dit comme ça, mettre un coup, ça veut dire, montrer à la personne combien il est chasser, lui montrer combien il manque, lui montrer combien il est rien. Et plus tu lui montres son chrissaron, et plus il désire devenir quelque chose, se concrétiser, réaliser et grandir. Et donc il pousse. D'accord? La plante, elle pousse parce qu'on lui montre combien elle est petite et mais quoi, t'es qu'une graine pour l'instant. Regarde, t'as rien fait dans ta vie, tu t'es paralysé, t'as pas grandi. Alors il lui montre ça, il le frappe en lui montrant ça. C'est-à-dire, il lui dit rien à la plante. C'est-à-dire que l'existence même du Shamaïm, dans le sens qu'on est en train de dire, c'est que toutes les choses, elles aspirent à grandir, seulement parce qu'il y a une réalité absolue, une réalité vraie, qui lui montre qu'en vérité, il y a un endroit où les choses, elles sont absolues, elles sont vraies, et c'est plus là le monde de la possibilité, mais c'est le monde de la réalisation, le vrai monde, où les choses, elles se réalisent vraiment. Et quand il est en bas, et qu'il a en face de lui le Shamaïm, il dit, en fait, moi, je suis qu'une possibilité, il faut que j'y aille, il faut que je fasse, il faut que je me concrétise, et ben là, il grandit. Si vous voulez, aujourd'hui, si on dit à quelqu'un qui n'est pas bien, On lui dit qu'il grandit un petit peu, mûrit un petit peu. Alors, avant, les gens, ils grandissaient. Maintenant, ils tombent en dépression. Bon, c'est d'accord, parce qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas dire aux gens qui font pas grand-chose dans leur vie. Parce que sinon, les gens, ils tombent en dépression, ouais, aujourd'hui. Pas ils tombent en dépression, normalement. C'est parce que ça ne pousse plus à grandir. Parce que une génération, on est tellement faible. Aujourd'hui, le peu de manque qu'on a, plus ça nous pousse à grandir, comme cette plante-là qui aspire qu'à grandir quand on lui montre combien elle est petite. Eh ben aujourd'hui, ça fait qu'on a envie encore de déprimer. D'accord? Mais ça, c'est un autre problème. Donc, en vérité, la présence du chamaïm, c'est un rappel, c'est la présence de la réalité qui dit à la possibilité, devient quelque chose. C'est ça qu'elle veut dire, le Midrash d'après le Maharal, quand il dit que chaque plante, chaque chose qui grandit, qui pousse aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une chose dans le ciel qui le frappe et qui lui dit grandir. C'est pas qu'il le frappe, c'est qu'il lui montre que il y a tout à faire et rien n'est fait. Il y a une réalité absolue qui lui montre à la possibilité qu'elle est que possibilité et qu'elle n'a rien fait encore. Et donc la plante, elle grandit. Et en réalité, nous, on doit apprendre de ça, si pour une plante, mais ça ne nous intéresse pas que les plantes, elles grandissent. C'est l'homme, il doit voir, il doit avoir un regard tourné vers le ciel et se dire, finalement, qu'est-ce que j'ai acquis? Avec quoi je vais arriver au Lamaba? Avec quoi je vais arriver? Est-ce que j'ai réalisé une certaine shlemout? Est-ce que je me suis rapproché de quelque chose? Si quelqu'un il n'est rien devenu, il n'a rien évolué dans sa vie, ben il a souvent sur la main, il n'est rien aussi. Finalement, il meurt avec les possibilités, et ben les possibilités, elles s'évaporent à la fin. Il n'y a rien qui va. C'est ça la Gemara dans Baba Batra. Elle dit que quand ils avaient Bakol, Mikol, Kol, le Kol, Bachamim, Varet, d'Abraham Avinu, de Yitzhak et de Yaakov, ça veut dire que eux, leur terre et leur ciel, leur Kol, Bachamim, Varet, ça formait un tout, un ensemble. Ils étaient un Kol. Un Kol, c'est-à-dire un ensemble. Dans quel sens un ensemble? Ça veut dire qu'il n'y avait pas une seule dissonance entre le ciel et la terre chaude. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de la terre chaude. Ça veut dire qu'eux, ils se sont réalisés entièrement. Ils ont jamais laissé passer un instant dans leur vie qui n'était pas dirigé par la volonté d'Hachem et qu'ils n'ont pas laissé une possibilité qu'ils n'ont pas exploitée et concrétisée pour devenir un peu meilleur, pour devenir des hommes un peu plus parfaits. Et donc, ils ont réalisé dans ce monde-là un petit peu là-bas. Ils étaient déjà un petit peu dans le Lama Ba. Ils étaient déjà un petit peu dans le Lama Ba. Parce que le Lama Ba, ça veut dire que je vis ce que là où je me suis réalisé. Dans ce Lama Zé, il manque. Mais quelqu'un comme Avraham Tzvi Yaakov, que eux, toute leur vie, ils n'ont pas laissé passer un instant sans le réaliser, sans le concrétiser, sans aspirer, sans évoluer grâce à cet instant. Alors eux, ils ont déjà goûté un petit peu au Lama Ba. Et c'est pour ça aussi que la Gemara est dit dans Sanhedrin que chez Anim Saler Safar les Avraham Yaakov, chez Ratsou, les Fanaï qui soucient, ils ont couru devant moi comme des chevaux. Ils ont couru devant moi comme des chevaux. Et la Gemara là-bas, elle dit aussi que c'est dans des marécages. Si tu cours pas dans des marécages, tu t'embourbes. Si tu cours, c'est le seul moyen de t'en sortir. Ce monde-là est comme un marécage. Si tu arrêtes de courir, tu t'embourbes. Et quelqu'un qui veut réussir, il est obligé de courir. Et eux, ils ont couru comme des chevaux à la charge. Ça veut dire que toute leur vie, ils n'ont pas arrêté de courir. Ils n'ont pas arrêté de courir. C'était comme des chevaux à la charge. Ils couraient toute leur vie avant. C'est les seuls. Les seuls trois. C'est les seuls qui ont goûté au Lamaba dans cette vie. Dire, mais quoi? Le Lamaba, c'est tu te lèves le matin, tu es en bonne santé, tu es jeune, tu as le monde devant toi. Mais en réalité, ce jeune-là qui se lève le matin, il fait beau, il a toutes les possibilités, il se sent bien dans la vie. Mais c'est rien du tout, il a rien fait. Et le soir, il a toujours jamais. Et le soir, il reste toujours, il n'a rien fait. Nous, les jeunes, on ne fait rien de notre vie. D'accord, comme disait mon Shiva, faites quelque chose de votre vie. Vous, votre problème dans votre génération, il disait à nous, pas le vôtre, mais la mienne, c'était qu'on fait rien de notre vie. C'est l'indifférence à la vie totale. Avant, les gens, peut-être, ils faisaient des rappels, c'était bien, peut-être, c'était pas bien, mais au moment, ils s'investissaient dans quelque chose. Ils avaient une volonté de faire quelque chose. Ils devenaient des gens, bien ou pas bien, mais ça changeait, ils devenaient quelque chose. Et de nos jours, ils nous disaient, vous faites rien. Vous, vous faites rien. Voilà, c'est le vide. C'est ça le vide. C'est-à-dire qu'en fait, on se complaît dans les possibilités. On se complaît dans la possibilité d'être quelque chose. Et on choisit jamais rien. On reste des Bahourim ma vie, quoi. Bahour, c'est celui qui a le choix. Parce qu'il a pas encore, il s'est encore marié. Puis quand tu te maries, tu t'es posé, tu as choisi. Tu avais 1 milliard de femmes possibles, j'exagère. Tu pouvais te marier, tu as choisi de te marier avec celle-là. Par contre, c'est quelqu'un qui se laisse toujours le choix. Donc, en réalité, il y en a qui sont Bahourim ma vie. Ils ont l'impression qu'ils ont toujours le choix. Ils courent pas constamment. Rav Moshe dit, le vrai plaisir, le vrai kiff dans la vie, le vrai ta'anoug, c'est pas quelqu'un qui croit qu'il a tellement de possibilités que ça lui provoque une sensation de vie. Ça provoque une grande sensation de vie. Parce que la vie dans ce monde, c'est une possibilité. C'est-à-dire que le monde a été créé en tant que potentiel. Mais quand tu réalises rien, en réalité, cette simcha, c'est une simcha de Hevel, c'est une simcha de Tohu, c'est une simcha de vide, de rien. Alors, pourquoi le Yetzer Hara maintenant? Si on revient à la Gemara dans la 3, on a dit qu'il y en a trois, que le Yetzer Hara, il n'a pas dominé. C'est lié directement au Sélec Bakol Mikol. Alors là, écoutez, c'est un film extraordinaire. C'est quoi le Yetzer Hara? Bon, Yetzer Hara. C'est quoi Yetzer et c'est quoi Hara? Alors,
Bon,
oui. Alors, Yetzer, ça veut dire quoi en hébreu? Yetzer, c'est Milashon Tsura. Yetzer, c'est Tsar, ça veut dire quelque chose qu'on dessine. La Tsura, on en a parlé avant. Le Yetzer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Yetzer, il va voir le Homer, il va voir le potentiel, la matière, et il veut l'habiller à sa manière. Ça veut dire, il lui propose une Tsura qui est déviante, qui est pas celle qu'il faut. Il va, c'est quelqu'un qui est encore dans le monde de la possibilité, qui a pas encore, qui s'est pas encore fixé, qui n'est pas assez travaillé pour. En tout cas, chacun a son niveau de Nekoudatafra, chacun a son niveau de là où il est encore faible et de là où il a déjà acquis. Il y a des gens qui ont déjà acquis des choses, là, il y a des choses où il est encore à travailler. Là où quelqu'un il est encore en combat, eh ben, le SRA, il va venir, il dit là, tu as plusieurs possibilités. Ben voilà, moi, je viens et je suis Tsar Lecha, je te dessine, je te propose une Tsura. Voilà, regarde, cette Tsura, elle te plaît. Et il lui propose un monde illusoire, un monde de Taavot, un monde de. Mais c'est une Tsura, il lui propose une certaine Tsura, un sens à sa vie. Et donc, en fait, il veut le détourner du Shamaïm, il veut le détourner de la réalité. Il veut lui dire, regarde, regarde plus là-bas, regarde là, regarde à droite, regarde à gauche, regarde, regarde, regarde plus en haut. Tout ne fait pas ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui vient le Yetzer Hara? Il vient et il casse le Kol Bashamim Varet. C'est-à-dire, le Kol Bashamim Varet, c'est quand vous avez le ciel et la terre qui forment un tout harmonieux. C'est-à-dire qu'entre le Ratson Shamayim, entre la réalité qui est au Shamayim, qui est qu'on a réalisé sa vie à travers la Torah et les Mitzvot, et le Eretz, qui est un monde de possibilités, qui est là pour travailler, pour courir vers, et ben lui, il s'introduit entre les deux, il dit, regarde, tu vois, le Eretz, moi, je te fais courir vers ailleurs, je te détourne du Shamayim. Et donc, il casse le lien entre les deux, il casse la ligne du corps, et il sépare les deux. Et donc, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas, ils n'ont pas eu de, ils étaient, ils n'ont pas eu l'Oshalat Be'ezara, parce que comme ils étaient ils étaient complets, c'est-à-dire l'entité Eretz Shamayim, c'est eux, ils n'avaient pas de, il y avait pas, ils étaient au diapason totalement, bah, etc. Il n'avait pas rentré, pas rentré. Parce que quelqu'un qui court constamment toute sa vie et qui se réalise à chaque instant et qu'il laisse rien passer, il laisse aucune Tsura négative rentrer dans sa vie, dans son chromère, c'est-à-dire dans le sens qu'il a de sa vie, dans les possibilités qu'il exploite, il les exploite toutes et de la bonne manière, et bah, etc. Il n'a pas rentré. Impossible, etc. Il peut pas rentrer. Parce que ça veut dire quoi, Ra, dans la Torah, le Lachon Ra? Vous voyez, dans la Gemara, on parle de Ra, quelque chose de fragile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose de cassé. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, c'est quelqu'un qui vient apporter une Tsura, qui vient apporter un sens aux choses, qui vient fragiliser, casser quelque chose. Il vient casser le lien qu'il y a entre le Eretz et le Shamayim. Il vient et il fissure. Il te dit, regarde, il veut fragiliser le sens que tu donnes aux choses. Donc, il t'amène à droite, à gauche, etc. Ça, c'est le Yetzer Hara. D'accord? Et c'est pour ça que Avraham Avinu, l'Oshaat Yetzer Hara, Yitzhak, pas Yetzer Hara, Yaakov, pas Yetzer Hara, parce que c'est des gens qui, le Yetzer Hara, ils n'avaient pas d'emprise sur eux, ils n'avaient pas où rentrer, pas rentrer chez eux. Maintenant, quand vous lisez le passage, vous allez voir que c'est le mamash qui a marqué dans le passage. Ben, Avraham Zaken, Avraham était vieux. Ça veut dire quoi? Il avait acquis de la chokhmah. Bayamim, en allant dans les jours. C'est-à-dire toute sa vie, en allant dans les jours, il acquiert, il concrétise, il réalise, il évolue toute sa vie. C'est ça, Avraham Zaken. Et à Hachem, Berach et Avraham Bakol. Et Hachem, il a béni Avraham dans la Mida de Kol. Ça veut dire qu'il lui a donné, il a béni avec cette Mida du Kol, c'est-à-dire Avraham Avinu, quelque part, pour arriver à ce goût du Olama, du Olamaba et au Kol, etc. Il ne vient pas, il faut l'aide d'Hachem, évidemment. Qu'Hachem, il l'a béni dans cette mida du kol, il l'a béni dans cette mida où finalement toutes les choses ensemble sont liées. Pourquoi? Parce que comme Hachem, Avraham Zaken Babayamim, comme Avraham c'était un Zaken, c'est-à-dire qu'il exploitait tout, il acquiert, c'est-à-dire qu'il prend son argent, il prend ses possibilités et constamment il achète, il achète, il achète, il investit, il laisse rien passer. Alors Hachem, Avraham Barach et Avraham Bakol, alors Hachem il l'a aidé et il lui a donné une bracha qui s'appelle le Bakol, c'est-à-dire le Bakol Mikol Kol, c'est-à-dire la chose qui fait que maintenant, il n'y a plus de fracture du tout entre le Shamayim Varet. Et donc, quelque part, Avraham Avinu, il vivait sa terre comme le Shamayim. Il vivait un petit peu déjà dans le Lamaba. Il vivait déjà dans la profit de sa réalisation et non plus seulement dans le travail de sa réalisation. C'est ça, voilà, il y a marqué dans le passage. Ça a l'air comme ça un peu, mais c'est vraiment ce qui a marqué dans le passage d'après le Ramban. Maintenant, pour revenir au début de l'histoire. Donc, Avraham Avinu, il achète une grotte, un champ. Il achète un mouton pour sa femme Sarah. Cette grotte, elle s'appelle Mearat HaMarpella. C'est quoi Marpella? C'est quoi le chorage de Marpella? C'est Kefel. Kaf, P, Lamed. Kefel, c'est quoi dans la Torah? C'est un double. Mais attention, C'est pas deux fois, c'est une fois, c'est deux fois la même chose. C'est pas deux, c'est un fois deux le kefet. Ça veut dire, c'est deux fois exactement la même chose. Quand on dit le ganav, il paye kefet, le voleur il paye double, il paye la chose qu'il a volée et la même chose une deuxième fois. Tnaï kafoul, le tnaï de Bnei Gad Nerouven dans Parashat Matin, ça veut dire que avant de rentrer en Israël, ils ont Moshe Rabbeinu, il leur a dit, vous devez rentrer avec nous dans la terre et faire la guerre. Si vous faites la guerre, vous allez hériter de ce que vous voulez, les terres qui sont en dehors d'Israël. Si vous ne le faites pas, vous allez pas hériter. Il leur a dit, Aïe Kafoul, une condition double. C'est-à-dire, Mahloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Meir, il faut toujours préciser la chose et son contraire. Si tu veux ça, tu le fais. Si tu ne le fais pas, tu ne l'auras pas. D'accord. Rabbi n'avait pas besoin de préciser. Pourquoi? Parce que Michel est un cheval là. Parce que du oui, tu entends le non. Ça veut dire quand je te dis, si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Ça veut dire que si tu fais ça, tu l'auras. Et si je te dis, si tu fais ça, tu auras ça. Ça veut dire que si tu fais pas, tu l'auras pas. Donc en fait, je te dis deux fois la même chose, mais je te dis de deux manières différentes. Mais c'est deux fois la même chose que je te dise pas deux choses différentes. C'est ça, kafoul. C'est une condition double. Kafoul, dans le sens, c'est la même chose qui revient deux fois. C'est deux aspects différents peut-être, mais deux fois la même chose. C'était des gens, la mère à Tamarpella, sont enterrés là-bas, les zygotes. Adam et Chava, Avram et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. D'accord? C'est les seuls qui ont le droit d'être enterrés là-bas. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui étaient kfouim. C'est-à-dire quoi qu'ils étaient kfouim? Après Ramoshe, c'est-à-dire que c'est les seuls qui ont vécu leur vie, que le Shamaïm et le Eretz, c'est les seuls que dans leur vie, ils ont rendu le Eretz et le Shamaïm la même chose. Il n'y avait pas aucune déviance. La parole d'Hachem qui sort et la réalisation dans le monde, il n'y a aucune déviation, il n'y a rien qui est tordu. C'est-à-dire qu'ils ont vécu leur ciel et leur terre exactement de la même manière. Chez eux, c'était la même chose. Il n'y avait pas de dissonance entre les deux. C'est les seuls zougotes, c'est les seuls qui ont le droit d'être enterrés là-bas, parce que c'est la Mehara des Marpella, la Mehara des gens qui ont vécu de manière double. C'est-à-dire de manière où les deux choses, les deux aspects de leur vie, l'aspect d'aujourd'hui, l'aspect de demain, le Hayom, la Sota, le Machar, le Kamel Sraram, ils l'ont vécu de la même manière. Il n'y avait aucune déviation. D'accord? C'est ça que la Torah nous dit que alors là, c'est un peu plus difficile. Je vous dis la vérité, j'essaie de le comprendre avec vous. Rav Moshe dit comme ça, il dit que quand il a donné 400 pièces, alors ça, c'est des notions très maharaliennes que je ne maîtrise pas tellement bien. Il dit que le 4, c'est toutes les possibilités dans le 4, c'est-à-dire les quatre directions, devant, derrière, à droite, à gauche. 400, c'est le ribouille du 4. Dans le Zohar, on parle de Arba, Me'or, Alma, des Kisufin, les 400 mondes du désir. C'est comme si on disait que le 400, c'est toutes les possibilités qui s'offrent à un homme dans ce monde, les 400 mondes de Kisufin, de désir, c'est-à-dire les 400 possibilités qui représentent toutes les possibilités possibles, à droite, à gauche, devant, derrière, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Eh ben, il les a donnés à Ephron pour acheter ça. C'est-à-dire quoi? Il a dit à Ephron, prends de moi ces 400 pièces-là et donne-moi la Marat Amarpella. Donne-nous l'endroit où ils vont être enterrés, cet endroit qui est réservé aux gens, eux, ils ont tout concrétisé dans le monde, ils n'ont rien laissé. Toutes les possibilités, ils ont exploité. Alors moi, voilà, cet argent, c'est symbolisé par ces 400 pièces qu'il donne à Ephron pour récupérer cette Marat Amarpella, cet endroit. Ces gens-là, finalement, vous comprenez bien, ces gens-là, finalement, une fois qu'ils meurent et une fois qu'ils vivent, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence de leur vivant et de leur mort. Ils sont morts comme ils ont vécu et ils vivent comme ils sont morts. C'est-à-dire que leur Olam Hazeh et leur Olam Haba, ils sont quasiment les mêmes. Donc en réalité, cet endroit de Mahavat Amarpella, c'est la suite du chemin. C'est comme une étape pour eux où ils finalement vont là-bas et ils vont continuer à vivre la même vie qu'ils ont vécu ici. C'est ça, Mahavat Amarpella pour les Havas. Ils vont continuer à vivre là-bas ce qu'ils ont vécu ici. D'ailleurs, les Gemara dans la Vatra très éloquente, en fait, ils continuent à vivre là-bas aussi, physiquement, mais ça, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. D'accord. Donc, ça veut dire, la valeur des choses, pour reprendre l'idée de l'argent, la valeur des choses dans le monde, combien on sait une chose si elle est précieuse, on voit combien elle coûte. Je crois qu'on voit combien elle coûte. Ça veut dire, plus elle coûte là, plus il y a quelque chose de cher, et plus il faut donner de l'argent pour ça. Et plus il y a de l'argent, et plus il y a de possibilités de quoi faire avec un argent. Quand j'ai 100 euros, je peux acheter beaucoup plus de choses, beaucoup moins de choses que quand j'ai 200, etc., etc. Donc, plus une chose est chère, et plus il faut sacrifier des possibilités pour l'avoir. Et en fait, plus une chose est importante dans la vie, et plus elle est précieuse à mes yeux, plus je dois sacrifier de possibilités, plus je dois renoncer à énormément de choses que j'aurais pu faire pour me concentrer sur celle-là. Et plus je vais renoncer à autre chose, et plus ça veut dire qu'elle est précieuse. La même chose que l'argent. Plus je vais donner d'argent, ça veut dire plus je vais donner le potentiel à quelqu'un de pouvoir acheter d'autres choses avec, pour acquérir une chose, plus ça veut dire qu'elle est précieuse. Ça, c'est l'économie. D'accord? Donc Abraham Avinu, lui, il a tout donné pour la Maratama. Il a tout donné pour continuer à vivre. Parce que c'était l'endroit. Pourquoi c'était cet endroit-là? On ne sait pas. Non, c'est Hachem qui lui a envoyé une race où il y avait un animal qui a couru là-bas pour lui montrer que c'était là-bas. C'est un endroit qui est réservé à ces gens-là, où c'est les seuls gens qui faut passer par cet endroit-là pour continuer à vivre leur vie d'aujourd'hui, la continuer de la même manière plus tard. C'est à cet endroit-là que tout celui qui va être enterré là-bas, il est comme ça. Celui qui n'est pas enterré là-bas, celui qui n'est pas comme ça, il ne peut même pas rentrer là-bas. On ne peut pas rentrer là-bas. C'est pas possible. C'est techniquement pas possible. Parce que quand il veut rentrer là-bas, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne peux pas imaginer. C'est pas possible parce que dès que tu auras une dissonance entre le Ratzon Hashem et lui, il peut pas mettre les pieds là-bas. C'est pas possible. C'est réservé à ces gens-là. Alors maintenant, pour reprendre la métaphore de Kira Kira Misdeifron, vous savez, on a le temps de le dire, dans la femme, on apprend le Kinyan Kesef. On peut acquérir une femme avec de l'argent. De ici, car Mimeni, prends de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est ce qu'on avait déjà abordé la semaine dernière, comme dit le Rambam. Avant Matan Torah, quelqu'un qui voulait vivre avec une femme, il vivait avec elle, ils se mettaient ensemble, et après ils se séparent le lendemain, c'est terminé. Comme ça que ça se passe. Après Matan Torah, faire des kiddushin, faire des likourin, pour acheter. C'est-à-dire quoi? Faut acheter la femme, ça veut dire quoi? Faire des kiddushin, la sanctifier. Ça veut dire que tu dois d'abord donner de l'argent à la femme et elle accepte de se réserver à toi. Et toi aussi, une fois que tu as de l'argent, tu es engagé envers elle. Tu es asservi. L'homme, il a des responsabilités. C'est pas juste elle qui est envers le mari. Lui aussi, il se crée des responsabilités. C'est-à-dire qu'en vérité, avant de pouvoir vivre ensemble, tu dois d'abord renoncer à beaucoup de choses. Elle doit renoncer à toutes les autres possibilités qu'elle avait de se marier. Lui, il doit renoncer à toutes les autres femmes possibles, à tous les. Théoriquement, il va obliger. Mais ça veut dire qu'il doit s'engager à beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire qu'il se restreint énormément. Chez l'homme, il se restreint moins que la femme, c'est vrai. Il se restreint énormément et il sanctifie cette femme. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu es réservé envers moi et moi, je suis engagé envers moi. C'est ça qui racle. C'est-à-dire que les kiddushin de la Torah, ils correspondent à ce Kinyan Kesef qu'on retrouve dans le champ de Ephron, c'est-à-dire à la concrétisation des possibilités, c'est-à-dire je renonce à tout le reste et je m'investis dans cette chose-là. Je dois m'investir dans ça. Et une fois que j'ai accepté de faire ce processus avec cette femme, alors là, je peux vivre avec elle. Si les femmes, la femme et l'homme n'ont pas accepté ce processus de renoncer à tout le reste, de s'investir l'un envers l'autre, eh ben, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Sinon, c'est un mariage hors Matan Torah. Aujourd'hui, on se marie, demain, on se sépare. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, les possibilités restent toujours ouvertes. C'est-à-dire qu'on sait jamais vraiment, on n'a jamais vraiment renoncé au reste. Là, tu dois renoncer. Avant de vivre avec une femme, tu dois renoncer. Elle doit renoncer et toi, tu dois t'engager. C'est pour ça que la kicha kicha misdeifron, la xera shava, du kinyan d'une femme en lui donnant de l'argent et l'achat du champ d'Ephron, on l'apprend ici parce que c'est la même notion. Mais en plus, on a un peu le temps, je vais vous développer la suite. Et dans un autre cours, par rapport à ce que je viens de dire. Alors, je vais vous rajouter un peu de sel et de poivre. C'est très joli. Regardez, à la suite de cette histoire, Hachem Berach et Avraham Bakol. Il a béni dans tout. Rashi dit Bakol, Olé Begematria Ben. Dans tout, c'est Gematria fils. Parce que Bakol, c'est. Ouais, c'est Kaf Lamed, ça fait 50. Et 2, Ben, ça fait 52. Et puisqu'il avait un fils, il fallait le marier. Et c'est pour ça qu'Avraham Avinu, il envoie les deux. Attends, je ne comprends pas. D'abord, pourquoi tu ne me dis pas qu'il avait un fils? Dis-moi, Bakol, il avait Bakol. Dis-moi, il avait un fils. Et puis je sais de toute façon qu'il a un fils. C'est quoi cette façon de dire les choses qui est étonnante? Et deuxième chose qui est étonnante, c'est qu'il envoie Eliezer comme s'il ne savait pas où il allait le chercher. Tu vas chez ma famille, mais attention, si elle, après, bon, on verra. S'ils ne veulent pas, tu iras chez l'autre, tu iras chez Aner, je comme aimerais, tu iras chez Shemel. Avraham Avinu, il fait comme si on va chercher une femme inconnue, il faut absolument que oh, ça ne va pas être facile, je ne vais pas chez Kumaran. Mais en vérité, tout ça, c'est un peu un trucage. Parce que si vous regardez Rachid à la fin de Vayira, il dit Vayira, et après ces choses, la Vayu, il a été dit Avraham en disant, Iné Yalda Milka, Gami Bani Nahor. Milka aussi, elle a enfanté des enfants à Nahor, etc. etc. Jusqu'à arriver à Rivka. Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Rachid dit, quand la Yichusi Malalou, tout ça a été écrit que pour ce passé. Donc en vérité, comme il dit Rashi, c'était sa bat-zoom. Rivka, on lui a dit, tu sais, Rivka est née, c'est-à-dire Rivka, la promise de Yitzhak, elle est née. Ah, ok, elle est née, c'est mon père, parce qu'il avait 37 ans à la Akedah. Là, il en avait 40 quand il s'est marié. Il a attendu qu'il avait 40 ans, il a envoyé son fils, il a envoyé chercher une femme pour son fils, parce qu'il avait 3 ans, il était en âge de pouvoir se marier. Donc en réalité, il savait très bien qu'il allait chercher. Et pourquoi il fait tout ce scénario-là? Alors, regardez, c'est un cours de 1 heure et demie, mais je vous fais la question et la réponse, pour faire pas vu ce qu'on a vu. On peut bien appréhender cette idée-là. L'idée, c'est comme ça. C'est vrai que Yitzhak, sa promise, c'était Rivka. Mais le problème, c'est que Avraham, Hachem, Berachet Avraham, Bakol, Bakol, c'est Gematria Bet, c'est son fils. Ça veut dire que la bracha qu'Hachem il a donné à Avraham du Bakol, c'est-à-dire le travail qu'Avraham il a fourni sans lui, où il est arrivé à cette réalisation-là, où chez lui, la terre, il courait que vers la volonté d'Hachem et il ne laissait rien passer sur son passage. Hachem, il lui a octroyé cette bracha qui allait se continuer chez son fils, se perpétuer chez son fils. Et donc, ça, c'est pas évident pour trouver une femme pour quelqu'un. Ça veut dire, après qu'il avait un fils qui est dans la guématria du Bacol, c'est-à-dire que ce fils, en vérité, on lui fait allusion par le Bacol. Pour dire quoi? Pour dire que ce fils, c'est pas n'importe quel fils. C'est un fils qui a hérité de cette Mida du Bacol. Parce que Bacol, Micol, il a eu Micol, après Yaakov, il a eu le Col. Eh bien, pour trouver une femme pour quelqu'un comme ça, c'est pas évident. Est-ce que Rivka, elle va être à la hauteur? Et ça, il fallait arriver d'une certaine manière, où il fallait pas aller la chercher directement, il fallait vérifier, il fallait qu'il y ait des simanim, il fallait qu'il y ait des signes qui indiquent que c'est bien elle. Et je vais vous en donner un qui est extraordinaire. C'est quand il a vu arriver, il a couru à sa rencontre quand il l'a vu arriver. Rachid dit pourquoi? Parce qu'il a vu l'eau qui montait du puits quand il est arrivé. C'est quoi l'eau? L'eau qui montait. L'eau du puits, elle monte quand elle arrive. Et là, il a couru, il a dit c'est bon, c'est elle. Pourquoi? Alors, c'est extraordinaire. Dans le deuxième jour de la création, Hachem, il a séparé l'eau d'en bas et l'eau d'en haut. Il y a un midrash qui est ramené par Abinou Bachrier que les eaux d'en bas, elles pleurent. Pourquoi tu nous as séparés? C'est le seul endroit où ce n'est pas marqué Kitov. Kitov, parce qu'il y a une séparation, il y a un piroud, il y a une fracture entre les eaux d'en haut, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Symboliquement et rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Les eaux d'en haut, c'est toutes les Hashpaot Tovot, Triatamitin, Nesacha, toutes les brachot qui peuvent être données dans ce monde, qui passent à travers la pluie, sont habillées dans la pluie. En vérité, c'est pour ça que la Gemara dans Taanit, elle parle d'un jour de pluie comme un jour qui est plus grand que Triatamitin, plus grand que Matan Torah, parce qu'en vérité, un jour de pluie, la pluie, elle peut être de la pluie, mais elle peut être aussi habillée avec un brachot, et c'est vers ça qu'on prie aussi. Alors, les jours de pluie, toutes les Hashpaot Tovot, elles arrivent à travers la pluie. Les eaux d'en bas, on a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ça veut dire on a séparé la terre du ciel, c'est-à-dire on a Hachem, il a laissé les Hashpaot Tovot en haut, il faut aller les chercher. Et les eaux d'en bas, elles sont restées que l'eau dans le sens la Tahava, parce que la Tahava sont pendant au niveau des quatre primaires, c'est l'eau. Une chose qui. Le Maïm, c'est la Tahava. Et l'eau d'en bas, elle veut se reconnecter. C'est-à-dire la création, elle aspire à se reconnecter à la Kadosh Baruch Hu, à la bracha. Elle ne veut pas être séparée. Et quand Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a dit Vayar Hashem, et Kol Asher Asav, il est Tov Me'ot. Tout ce qu'il a fait, c'était Tov Me'ot. Comment tout ce qu'il a fait, c'est Tov Me'ot? Le deuxième jour, ce n'est pas marqué Tov. Une fracture. Oui, parce que Me'ot, c'est Adam. C'est les mêmes mots que Adam. Et en fait, disait Mefarshim que l'homme, c'est celui qui est censé refaire la connexion, tout simplement, entre Eretz et Shamayim. L'homme, il est censé faire le lien entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Il prend les Tahavot et les élever. C'est ça qu'il est censé faire l'homme. C'est ça, cette connexion. C'est pour ça que c'est Tov Me'od dans le sens que c'est lui qui va recréer le lien entre la fracture du deuxième jour, c'est lui qui va la réparer. Et quand Rivka, l'eau, elle monte vers elle, c'est qu'elle reconnaît quelqu'un qui va faire le lien. Le Kol Bashamim Varet, c'est quelqu'un qui fait le lien entre le ciel et la terre. Quand l'eau d'en bas, elle remonte vers la personne, quand elle la voit, c'est-à-dire qu'elle trouve chez cette personne-là quelqu'un qui va faire le lien, qui a le potentiel de faire le lien entre le ciel et la terre et de remonter vers l'eau. Et c'est ça, quand Eliezer, il a vu ça, il a dit, c'est bon, j'ai trouvé le mariage pour Yitzhak parce que c'est le bon bat de Bakor. Hazak.